Bonjour, aujourd'hui nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, la presse. Au programme, et si le français était l'une des solutions à l'émergence d'un monde durable? Jamais sans malaise, comprendre notre fascination pour les corps musclés et reporter ses vêtements, pourquoi pas? Bonne écoute!
Si le français était l'une des solutions à l'émergence d'un monde durable. Un texte de Maude Cohen, Daniel Jutras et Frédérico Pazin, paru le 1er mai 2023 dans la presse. Maude Cohen est directrice générale de Polytechnique Montréal. Daniel Jutras est recteur de l'Université de Montréal. Frédérico Pazin est directeur de HEC Montréal. Pour relever les défis de la transition sociale et environnementale à laquelle notre société fait face, la créativité scientifique et un dialogue ouvert avec le grand public sont plus que jamais indispensables. Dans ce contexte, amplifier l'enseignement et la pratique de la science en français peut contribuer à l'accélération de l'innovation et à l'adoption de nouveaux comportements. Alors que de nombreuses études font le constat d'une anglicisation de la science, l'Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal accueillent, du 8 au 12 mai 2023, le 90e congrès de l'ACFAS. Cette grande fête de la science en français coïncide avec le 100e anniversaire de l'ACFAS et illustre le dynamisme de la grande communauté scientifique francophone, ici au Québec, mais aussi plus largement au Canada et partout dans le monde. Cette année, ce sont près de 350 colloques et 700 communications libres qui offriront une véritable caisse de résonance à des travaux de recherche menés sur des thèmes de pointe aussi variés que les maladies du cerveau, l'exploration spatiale ou encore les finances des ménages, en passant par les métiers de la musique et la gestion du changement pour un monde durable. La nécessité de faire entendre une autre voix. Au fil des années, l'anglais s'est imposé comme la langue commune de la science. On peut reconnaître que son utilisation permet aux chercheuses et aux chercheurs d'ici et d'ailleurs de rejoindre la communauté internationale scientifique et de contribuer ainsi à l'avancement des savoirs et à la résolution des problèmes les plus pressants. Cependant, si l'usage commun de l'anglais est pratique, il faut aussi dire que le recours exclusif à son utilisation dans la recherche et la communication scientifique n'est pas neutre. Il influe sur le monde de pensée de ses utilisateurs, notamment des personnes non anglophones, et impose subrepticement une manière d'aborder le monde. Or, la grande richesse de nos établissements universitaires est la présence et l'importance des diversités, qu'elles soient culturelles, de genre, de point de vue, toutes sont essentielles à la vivacité de la science. Aujourd'hui, face à la complexité des enjeux, les solutions ne dépendent plus d'un seul individu ou d'une seule spécialité, mais d'équipes multidisciplinaires qui, mutuellement, s'enrichissent de leurs différentes perspectives. Dans ce contexte, la capacité de mener ses travaux de recherche dans une autre langue que l'anglais s'avère primordiale, car elle favorise des chemins de pensée autres et, par conséquent, stimule l'innovation. C'est pourquoi, dans l'ensemble des expertises mondiales, la science francophone doit continuer à faire entendre sa voix, soit lors de congrès comme celui de l'ACFAS, soit par l'entremise de revues ou de portails scientifiques en français, qu'il nous apparaît indispensable de soutenir. Un dialogue nécessaire avec les communautés. Tout aussi important que de faire de la recherche dans la langue de son choix, diffuser la science en français pour rejoindre le grand public est aussi primordial. Rappelons que le français est la 5e langue parmi les plus parlées dans le monde et respectivement 4e et 3e pour la présence sur l'Internet et dans le milieu des affaires. On compte plus de 300 millions de francophones dans le monde, dont 8 millions au Canada. Donner accès à une science en français facilite le partage des connaissances entre chercheurs et chercheuses et avec la société. Cela permet d'enrichir la culture scientifique des citoyennes et des citoyens et de lutter contre la désinformation. Enfin, à l'heure où la concertation avec les communautés locales est primordiale, la vulgarisation scientifique en français favorise une meilleure compréhension des faits et des échanges éclairés qui peuvent conduire à l'acceptabilité et ultimement au changement des comportements. Aucun acteur ne pourra à lui seul assurer la survie et la vitalité de la science en français, que ce soit au Québec ou dans le monde. Établissements d'enseignement, organismes de culture, médias, acteurs institutionnels et gouvernements, il nous faut agir de concert. Nous avons chacun notre rôle à jouer pour créer un écosystème qui permettra à la science en français de faire entendre sa voix et de contribuer ainsi à l'émergence d'un monde plus durable, plus harmonieux et plus inclusif. C'était « Et si le français était l'une des solutions à l'émergence d'un monde durable ?» un texte de Maude Cohen, Daniel Jutras et Frédérico Pazin, paru le 1er mai 2023 dans la presse. Jamais sans malaise, un texte de Marie Tison, paru le 10 mai 2023 dans la presse. Il peut être tentant de laisser Pitou gambader joyeusement dans la forêt. Après tout, que peut-il arriver? Des randonneurs l'ont appris de façon tragique au parc national de Jasper il y a quelques semaines. Un chien égorgé, un ours abattu. La balade en forêt s'est terminée de façon sanglante. Les randonneurs parcouraient le sentier du lac Wabasso avec deux chiens qui n'étaient pas en laisse. Un ours noir s'est approché et l'un des chiens l'a pris en chasse. L'ours, un gros mâle de 92 kilos, s'est retourné et est revenu vers les randonneurs pour attaquer l'autre chien. L'un des randonneurs a projeté du gaz poivre sur l'ours et a même utilisé le contenant pour donner des coups sur la tête de l'animal, sans succès. L'ours n'a pas lâché prise et est reparti avec la carcasse du chien. Les autorités du parc ont jugé que le comportement de l'ours était inhabituel et très dangereux, puisqu'il n'avait montré aucune crainte de l'humain. Comme il était à risque de répéter ce comportement, ils n'ont pu faire autrement que de l'abattre. Nous offrons nos condoléances aux propriétaires de chiens impliqués dans cet événement, a fait savoir le Parc national de Jasper sur sa page Facebook. C'est un triste rappel que tous les animaux de compagnie doivent être gardés sous contrôle et en laisse en tout temps dans les parcs nationaux. Sur son site Internet, Parc Canada explique que les chiens non tenus en laisse peuvent provoquer des comportements agressifs chez des prédateurs comme les ours, les loups ou les coyotes. Les prédateurs considèrent un chien qui se promène librement comme un compétiteur ou une proie. Ils pourraient l'attaquer ou le suivre jusqu'à ses maîtres ou d'autres personnes. Chien sous certaines conditions. La Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, insiste également sur l'importance de garder les chiens en laisse. Il s'agit de préserver le milieu naturel, affirme son porte-parole Simon Boivin. On ne veut pas que le chien coupe dans le bois et fasse peur aux animaux, notamment en hiver. Les animaux vont utiliser leurs réserves énergétiques pour s'enfuir au lieu de les conserver pour passer l'hiver, alors que la nourriture est moins accessible. Il ajoute qu'il y a toute une faune qui vit au sol et qui peut être dérangée par le piétinement ou le bruit des chiens. L'utilisation de la laisse fait partie des conditions essentielles à respecter pour avoir le privilège d'aller randonner avec son chien dans les parcs de la CEPAC. Avant 2016, il était carrément interdit d'y amener son animal domestique. À la suite d'un projet pilote réalisé entre 2016 et 2019, la société a décidé de permettre les chiens dans certains secteurs dans la plupart des parcs, sous certaines conditions, de manière à préserver le milieu naturel et l'expérience des autres personnes qui viennent dans les parcs, indique M. Boivin. Les chiens doivent donc rester dans les sentiers où leur présence est autorisée. Ils doivent être tenus en laisse en tout temps et leur propriétaire doit ramasser leurs besoins. La CEPAC a choisi certains sentiers plutôt que d'autres parce que la présence de chiens y était moins dommageable pour la nature. Il y a des endroits où il y a des contraintes particulières, comme les habitats qui sont fréquentés par les caribous, explique Simon Boivin. Au parc du Bic, il y a présence de phoques. Les chiens ne peuvent pas aller non plus sur l'île Bonaventure, où il y a des colonies de foudbassan, ou à Plaisance, où les milieux humides sont importants pour les oiseaux et les tortues. La CEPAC prend également en considération le taux de fréquentation des sentiers. Plus il y a de gens sur le sentier, plus les propriétaires de chiens sont enclins à les garder en laisse, explique Simon Boivin, porte-parole de la CEPAC. Un privilège. La possibilité de randonner avec son chien est un privilège qui peut se perdre. C'est ce qui s'est passé notamment au sentier du ruisseau David l'hiver dernier, au parc national du mont Orford. Il a fallu retirer ce sentier de la liste des sentiers autorisés parce que la consigne du respect de la laisse n'était pas respectée malgré de nombreux avertissements, la signalisation, les patrouilles, déplore M. Boivin. La même situation s'est répétée du côté du parc du Mont-Tremblant et du parc Frontenac. Les sentiers seront rouverts aux chiens à l'été, mais la situation sera réévaluée pour l'hiver prochain. C'est dommage, lance Simon Boivin. Il y a des gens qui respectent les consignes et qui sont privés d'accès parce que d'autres ne le font pas. C'était « Jamais sans malaise », un texte de Marie Tison, paru le 10 mai 2023 dans la presse.
Comprendre notre fascination pour les corps musclés, un texte d'Olivia Lévy, paru le 5 février 2023 dans La Presse. Dans La fabrique du muscle, paru aux éditions L'Échappée, l'auteur Guillaume Vaillet, professeur de sciences économiques à l'Université Grenoble-Alpes, tente de comprendre notre fascination pour les corps musclés. Lui-même adepte de culturisme, il explique que le corps est devenu une façon de maîtriser son existence dans notre société remplie d'incertitudes et de vulnérabilité. Entrevue. D'où vient notre fascination pour les corps musclés? Il y a plusieurs facteurs historiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on accorde une attention particulière au corps et nous avons un rapport à la santé qui est très présent. Il y a également le souci de notre apparence, l'image de soi et la valorisation de l'individu. L'État se désengage, chaque individu doit se responsabiliser et ça renforce l'idée qu'il faut se distinguer pour exister. On veut donner un sens à sa vie, alors on va investir dans son corps et le muscler. C'est une façon de se positionner dans la société, de revendiquer une différence. L'idée de la construction de l'identité personnelle passe par la réalisation de soi. Plus récemment, avec les réseaux sociaux, l'image qu'on véhicule, celui d'un corps musclé et très visible, renforce cette croyance que c'est à travers ce corps qu'on va avoir une identité. Est-ce qui va nous inciter à fabriquer notre corps? Le muscle nous fascine et c'est pour cette raison que sa fabrication est recherchée. Qu'est-ce que symbolise le muscle? Historiquement, le muscle a toujours été identifié aux hommes. Lors de l'apparition des sports modernes, deuxième partie du 19e siècle, le capitalisme va renforcer la croyance que le muscle est le symbole de la puissance et de la performance. Dans l'imaginaire, le muscle est masculin. On le voit dans les films, les bandes dessinées, les dessins animés. Le muscle fait aussi référence à une fonction de productivité et de résistance dans un monde où on a besoin de faire face à des problèmes et à des vulnérabilités. Au fil du temps, il s'est dégenré. Le muscle est aussi recherché par les femmes comme mesure de résistance face à l'imprévu. Le muscle est aussi esthétique. Les femmes vont globalement se concentrer sur le bas du corps, les cuisses et fessiers, comme Kim Kardashian, alors que chez les hommes, les muscles prioritaires sont les biceps et les pectoraux. Le muscle véhicule aussi l'image de contrôle de soi, d'une personne qui prend soin d'elle, qui est soucieuse d'une certaine exigence vis-à-vis d'elle-même, des qualités qui sont aussi valorisées dans le monde du travail d'aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer ce que vous appelez le capitalisme des vulnérabilités? Ces vulnérabilités sont produites par le système économique. Elles peuvent être liées au travail, aux crises financières, mais aussi au sentiment d'insécurité, à la santé, à l'environnement ou à l'identité de genre. Ces vulnérabilités s'accompagnent de différentes peurs, comme celle d'être malade ou de mourir. C'est pour cette raison que le corps sain, associé aux muscles, est vu comme un révélateur de performance économique et sociale. Un corps musclé est synonyme de productivité économique et renvoie à une image de performance, de maîtrise sur le monde, alors que nous avons parfois l'impression d'être dépossédés et de ne plus avoir de prise sur celui-ci. Fabriquer du muscle, c'est la volonté d'avoir le contrôle sur soi? Oui, c'est la volonté de maîtriser une destinée. Quand vous développez du muscle, vous allez le ressentir dans vos émotions. Vous êtes ancré sur Terre, ce qui est très important dans une société incertaine et troublée. Vous avez un projet, un horaire, des sensations, des résultats visibles. C'est porteur pour l'individu. Muscler son corps, ce n'est pas perçu comme un loisir, mais comme un travail. Oui, on est dans une logique de travail. On est marqué par cet héritage de la culture protestante avec le travail comme source de dérivatif à l'angoisse et comme source de salut dans un monde incertain. On le retrouve dans le travail du muscle des individus parce qu'il nous construit et qu'il crée un cadre. Cette activité nous donne la sensation d'exister. Le travail va produire une certaine douleur qui est recherchée, car c'est à travers elle qu'on se transforme. Est-ce qu'on critique le fait de vouloir être musclé? On a eu longtemps en France cette opposition entre la pureté de l'esprit et cette obsession du corps mis en avant, comme si être intellectuel et être musclé n'étaient pas compatibles. En Amérique du Nord, la culture est différente. C'est perçu comme un indicateur d'une personne qui prend soin d'elle et qui a envie d'être productive. Il y a une vraie complémentarité. La musculation est critiquée quand elle est pratiquée à l'extrême, dans le bodybuilding. Arnold Schwarzenegger, Monsieur Univers. Le bodybuilding est moins en vogue car il apparaît comme trop statique et inadapté. Il y a cette critique d'être un sport qui ne sert à rien, car on se concentre sur la forme et non sur la fonction du muscle. On se dit, mais à quoi ça sert d'avoir les plus gros biceps du monde si on n'en fait rien? On dira à un joueur de hockey, de soccer ou de rugby que son corps musclé est superbe, car le muscle est en mouvement. Il sert à obtenir une meilleure performance et une meilleure endurance dans le sport. C'était « Comprendre notre fascination pour les corps musclés », un texte d'Olivia Lévy, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Reporter ses vêtements? Pourquoi pas? Un texte de Valérie Simard, paru le 23 avril 2023 dans La Presse. Des tapis rouges aux réseaux sociaux, une réflexion s'amorce autour de cette pression sociale d'arborer constamment de nouvelles tenues. Dans un monde d'images façonné par la mode rapide à bas prix et les réseaux sociaux, porter à deux reprises les mêmes vêtements au cours d'événements est devenu un faux pas. Si bien que les médias anglophones parlent du « stigma of outfit repeating ». Kate Middleton, Helen Mirren, Kate Blanchett. Toutes ont été exposées dans les médias pour avoir arboré plus d'une fois la même tenue lors de sorties. Même si le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est fait taquiner récemment dans l'émission Infoman pour avoir revêtu le même veston à de nombreuses reprises, les femmes sont plus susceptibles de subir des critiques en cette matière. Un deux poids, deux mesures, qu'a dénoncé l'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama. Un agenda pour les looks. De Carrie Bradshaw, Sex and the City, à Emily Cooper, Emily in Paris. Le cinéma et les séries télévisées nous ont exposés à ces images de femmes privilégiées, symboles de réussite, qu'on voit rarement vêtues deux fois de la même façon. Ça nous teinte énormément, remarque Jeannie-Claude Vien, agente de développement en transition écologique à Concertation Montréal. De voir une personne reporter le même manteau, la même chemise à la télévision, c'est le genre de choses qui pourraient nous travailler dans notre inconscient et faire en sorte que ce soit plus facile pour nous de reporter des choses. Car nul besoin d'être une vedette d'Hollywood pour ressentir cette pression. Certaines tiennent un agenda de ce qu'elles ont porté au cours de tel événement et notent qui y était pour ne pas reproduire le même look. Si j'ai une soirée de travail, par exemple, je ne vais pas remettre la même robe que j'avais avec les mêmes personnes dans une autre soirée, note Chloé Rincourt, professionnelle en marketing. Je pense que les gens le remarqueraient. En plus, il y a les photos. Ça me gênerait. Le fait que les tenues que l'on porte soient immortalisées lors du moindre événement est, pour plusieurs, un frein à leur réutilisation. « Je sens le besoin d'avoir de nouveaux vêtements pour aller en voyage », affirme Pascal Daigneault. « Ça n'a aucun sens, mais je veux de nouveaux vêtements pour mes photos de voyage. Tu peux regarder nos albums, je ne porte pas le même look deux fois. » Celle qui avoue, sans gêne, avoir trop de vêtements est devenue influenceuse mode et style de vie pendant la pandémie. Consciente de l'effet de ses publications sur ses 8000 abonnés, elle n'hésite plus à s'afficher avec le même vêtement, mais agencé différemment. Je pense que c'est une pression qu'on se met nous-mêmes parce que je n'ai pas moins d'engagement sur les photos où je reporte les mêmes vêtements. À moins que je porte le même look deux jours de suite, il n'y a personne qui s'en rend compte. Mais en tant qu'influenceur, tu regardes ce que les autres font et tu te compares, dit Pascal Daigneault. L'influence des influenceurs. Les influenceurs ont un rôle immense à jouer, croit Valérie Védrine, présidente et fondatrice de Masse Critique, un collectif pour la transformation durable de l'industrie des communications. Je pense qu'ils réalisent de plus en plus l'impact qu'ils ont et commencent à utiliser cette influence pour amener de la consommation plus responsable, dit-elle. C'est assez minime encore, mais c'est un mouvement qui a commencé à se créer. À Hollywood aussi, les voix s'élèvent. Après Jane Fonda, qui a déclaré à l'automne 2019 que le manteau rouge qu'elle portait lors d'une manifestation où elle a été arrêtée à Washington était son dernier achat à vie. L'actrice Kate Winslet a dénoncé la pression des tapis rouges. L'argent gaspillé pour cela, les heures et le stress que les gens consacrent à ces choses. Les artistes incroyables qui fabriquent ces robes sont merveilleux, mais faire quelque chose qui ne sera porté qu'une seule fois. J'ai déjà décidé que je porterai mes robes à répétition, a-t-elle dit en entrevue au magazine Vanity Fair en 2020. 2 ans plus tard, on la voyait sur le tapis rouge d'Avatar, The Way of Water, arborant une robe gris foncé du designer Badgley Mishka qu'elle avait portée en 2015 au Festival international du film de Toronto. « Ce n'est pas futile. On a besoin de ces modèles », applaudit Jenny-Claude Vien. Comme Mark Zuckerberg l'a été avec le jeans T-shirt. Le look minimaliste du patron de Meta a d'ailleurs inspiré une expérience à nos collègues en 2016. Pendant un mois, ils et elles ont porté un T-shirt gris et des jeans foncés. Et devinez quoi? Personne ne l'a remarqué. C'était « Reporter ses vêtements, pourquoi pas », un texte de Valérie Simard paru le 23 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vusezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau, Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Daniel Leveille à la recherche, Aya Jennifer Rando à la présentation et Nicolas Fartman au montage.